Ah, je t'ai dit que ça va placoter en studio dans les prochaines secondes, parce que pendant la pause, ça placotait encore Lynn. À chaque fois, elle vient, on placote. C'est Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Je pense que c'est une des préférées d'Audrey Pinchot, là, on
absolument
va se le dire. Je t'avais-tu callé à la chatte d'avance?
Quand même, pour vrai. Non, mais Paul, c'est une des premières personnes qui est revenue sur la liste de collaborateurs quand on a parlé de ce show-là il y a une couple de mois.
Ouais.
Puis je connaissais pas Paul. Fait que, puis Yann, je veux dire, il y a tout le temps plein d'idées de collaborateurs, mais tu sais jamais où ça va tirer. Tu sais jamais. Puis j'étais très, très curieuse, mais très satisfaite, oui.
Ouais, comment ça va, ma belle Paul?
Ben, ça va bien.
On est content de te voir.
Ça va très bien.
Hey, on parlait tantôt avec Audrey en début de show là, des habiletés sociales. Le vouvoiement, le merci, le
oui,
s'il vous plaît,
oui,
ça se perd beaucoup. Sur la route, on voit qu'il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés aussi là, avec le social. Des fois, tu es dans le trafic puis les gens ne veulent pas te laisser passer.
La courtoisie,
ouais,
en général.
Mais ils ne sauvent pas une seconde, ils ne sauvent pas deux secondes. Ils ne veulent juste pas te laisser passer alors que toi, tu veux juste t'immiscer sur l'autoroute parce que tu es dans une entrée d'autoroute. Autoroute, bien entendu. C'est chez Costco. Il y a des gens qui n'ont pas de vision périphérique. T'as-tu une vision périphérique, toi? Quand tu regardes un produit, tu vois-tu ce qui se passe à gauche et à droite?
Je vois clair. Moi, je vois clair. Vois quasiment tout le tour. Je suis comme un hibou.
Non, mais être conscient de son environnement.
Ouais.
Mais oui.
Ben, allez, là, on a tous rencontré ce type de personnage-là. Là. Son panier est dans le milieu de l'allée, puis lui, il est en face du produit. Puis t'as beau avoir 5-6 personnes chaque bord, lui, il tasse pas son panier.
Il n'y a pas de panier, conscience sociale.
Il s'en rend pas compte. C'est pas de conscience sociale. Moi, je disais qu'il n'y avait pas de vision périphérique, mais oui, ça peut être... Ça se perd-tu ou bien c'est juste une question d'âge? Tu sais, quand on est jeune, on n'est pas trop conscient de notre environnement. Quand on vieillit, on l'est peut-être un peu plus. Puis quand on a vraiment vieilli, on s'en sacre peut-être un peu plus de notre environnement.
On peut se dire lequel on pardonne le plus. Celui que c'est du volontariat.
Les enfants.
Oh. Oui, puis tu sais, il y en a que c'est du volontariat, tu vois qu'ils t'ont vu, mais ils s'en foutent pas mal. J'ai peut-être moins de respect pour cette catégorie-là, mais il y en a d'autres, effectivement, sont tellement concentrés. Tu sais, il y en a qui ont une concentration unique, unidimensionnelle. Là, tu es en train de m'installer. Donc, ces gens-là, on dirait que quand ils sont concentrés sur un focus, ils sont pas capables, effectivement, de voir ce qu'il y a autour. J'ai le pardon plus facile avec ces gens-là. Surtout que quand tu demandes, ils ont une réceptivité.
Ouais.
Tu sais, celui qui s'en fout, tu lui dis « Excusez.
» Mais c'est ça, ça arrive d'être dans l'une. Là.
Ça se
arrive, puis tu t'en rends compte, puis hey, « Excuse-moi, je suis tellement désolée, j'étais super...
Oui. »
Non, c'est ça. Mais est-ce que ça vient un peu... Tu sais, on a parlé, il y a un mois, on a parlé la dernière fois d'individualisme. Ça peut-tu rentrer un peu là-dedans? On est tellement concentrés sur nos petites affaires qu'on prend pas trop conscience de ce qui nous entoure.
Oui, puis ça va avec l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, si tu es empathique, tu vas être porté à justement... Tu sais, des exemples comme... t'es à l'épicerie, puis tu veux payer en argent pour toutes sortes de raisons, tu cherches ta petite monnaie. Ben, si moi, ça m'arrive, mettons, ben, je vais valider... Ben, je me retrouve avec de l'argent, je vends des livres. Fait que des fois, les gens me payent en argent, je me retrouve avec de l'argent. Ben, je fouillerai pas dans mon sac à dos s'il y a une file de 15 personnes. Donc, oui, ça peut s'inscrire dans l'empathie, dire, bien, si je suis seule au monde, je vais prendre le temps de fouiller. Sinon, c'est le savoir-vivre, c'est le savoir-être, c'est ne pas vivre sur une île déserte. C'est aussi la satisfaction d'avoir fait équipe avec les autres. Parce que moi, si je le fais, j'espère que la madame en avant de moi d'hier, là, alors que je suis en retard parce qu'il y a du trafic, puis qu'elle a fait valider ses 25 000 billets de l'auto.
Oh, Seigneur
Tu comprends? Je suis pas un enragé de nature, mais là, tu comprends?
Hein?
Ces gens-là!
C'est quoi ça? À l'heure de trafic,
ouais.
Tu sais, vas-y quand... C'est ça, la conscience sociale, c'est... Coucou, on est 25 qui attend, mais en même temps, je sais que je suis pas sur une île déserte, puis il faut que j'attende. Mais...
C'est comme à l'épicerie, quand t'as une épicerie de 300$, mais la personne derrière toi, elle a des croissants et une banane.
Très bon.
Laisse-la passer devant toi, ça va prendre 3 secondes et quart.
OK, mais t'es arrivé avant.
Ben, mais Yann,
franchement,
ta vie est-tu si importante?
En fin de semaine, pis c'est drôle que Paul me parle d'un exemple comme ça. J'étais avec ma blonde, on est au couche-tard, elle avait quelque chose à acheter, puis j'avais quelque chose à payer, fallait que je paye l'essence. Puis les deux, on était comme dans le fil, l'un à côté de l'autre. Puis la dame qui était en avant de moi faisait justement la validation de ses loteries. Puis elle en commandait d'autres. Puis le gars, tu sais, c'était un nouvel arrivant, parlait pas beaucoup français. Puis là, il n'est pas encore habitué avec sa machine. Puis à un moment donné, elle dit « Attends un peu, j'ai oublié ma sacoche. »
Ah non!
À part!
Elle est sortie du dépanneur.
Non!
Elle est allée dans son char.
Arrête!
Chercher sa... Tu sais, elle n'a pas pensé à se revirer. Hey, je m'excuse, vous pouvez passer, ben puis oui. Je vais faire ça après. Là. Elle a juste dit, attends un peu, j'ai oublié ma sacoche.
Puis ce monde-là, parce que tu le caricatures bien, ces gens-là, c'est comme s'ils pouvaient pas y aller, mettons, quand ils en ont juste deux à faire valider. Ils empilent les trois derniers mois pour être sûr de prendre un 30 minutes en caisse.
Un gros matinée king size, 25 cigarettes.
C'est épouvantable.
Ouais. Pas de conscience des autres.
Ouais. Mais en même temps, sont pas méchants. Là. C'est juste qu'ils sont pas conscients, tout simplement.
Ben, je pense que quand même, en vieillissant, on doit améliorer des choses. Tu sais, il y a des gens qui disent « je suis de même, je suis de même ». Moi, je pense qu'on vit plus longtemps, peut-être pour nous donner une chance d'évoluer un peu.
T'abandonnes-tu quand tu dis ça? Non, mais moi, je suis de même. J'ai 50 ans. Là, je suis de même, je suis de même.
Ouais, moi, je non.
Mais si t'as un problème là, qui est souvent rapporté par les blondes que t'as eues dans ta vie, tes amis, tes parents, puis ils te rapportent toujours que t'as ce problème-là, tu devrais le régler. Et si tu dis « ah, ben je suis de même », c'est que tu travailles pas sur toi-même.
Mais non. Tu sais, il y avait Piaget, à l'époque, qui parlait du développement de l'enfant et qui disait qu'à partir de... Tout se jouait entre 0 et 7 ans. Moi, j'ai toujours été un peu contre ça parce que je me disais, si c'était ça, on va se suicider à 8 ans.
Ouais.
Parce que, non, mais toute une vie, t'apprends. S'il fallait qu'on puisse plus apprendre, ça vaut quoi de vivre? Puis d'apprendre sur toi. Puis t'es fier quand tu t'améliores. Mais il y a des gens qui sont... peut-être les candidats d'aujourd'hui de qui on va parler, que j'appelle les gros gibiers affectueux.
Les gros gibiers. Puis avec cette phrase-là, t'as mélangé, Audrey, t'as pas aidé. Oui. Elle a pensé que t'allais nous faire une chronique chasse-pêche. Tu sais, notre chum Martin Bourget, qui est dans l'Ouest canadien, là, qui chasse le gros bac. Là, c'est ça, tu nous parles d'armes à feu, tu nous parles d'animaux, de chasse-pêche, c'est ça?
Je peux t'en parler.
Penses-tu vraiment?
Est-ce que
ça
sera intéressant?
Comment se positionner devant l'opposition et l'argumentaire?
Puis je les appelle affectueusement. Puis ça, c'est pas venu tout de suite, c'est venu en cours de route. En donnant une conférence, ça m'est comme apparu clair, tu sais, que c'est du gros gibier dans notre vie. Je crois, puis pour avoir travaillé avec plusieurs clientèles et travaillé encore avec plusieurs clientèles, puis de voir plein de monde dans ma vie, je crois que les gens qui présentent un défi, c'est ceux qui ont l'argumentaire, l'opposition. Au fond, ils n'ont pas justement la capacité d'entrer en relation de façon sereine. C'est toujours comme compliqué. C'est comme si tu te sentais intimidé par
ces
personnes-là.
Les gens qui se braquent facilement, c'est ça?
Écoute, si on avait à faire une définition, les gens qui sont opposants, tu peux l'être de façon occasionnelle dans la vie, mais là, quand je parle de gros gibier, je parle de gens où tu n'as jamais le dernier mot, où c'est jamais correct, où ils n'écoutent pas. Ils entendent pour
répondre.
Et ça devient intimidant. Tu sais, c'est des gens qui ont un... C'est pour ça que je les appelle les gros gibiers. Un gros potentiel intimidant. Où une conversation simple devient compliquée. Où tu as l'impression d'être jamais correct. Et tu deviens dans l'appréhension de voir ces gens-là. Tu dis, ah oh, non, il va-tu être là?
Le party de Noël, on va encore se le taper.
On va encore se le taper, là, tu sais. Puis actuellement, je pense concrètement que nous trois, plus tous les petits auditeurs en ligne, donc ils sont plusieurs, on a tous un gros gibier en tête.
Mon Dieu,
oui. Ah, des fois, c'est notre beau-frère. Des fois, c'est notre beau-père. Des fois, c'est le gendre qui est comme ça. Puis des fois, c'est juste nos amis. On connaît on connaît nos moineaux qui sont autour de nous autres. Là. Puis des fois, tu te dis, jusqu'à où je vais mener le combat? À quel point j'ai l'intention de mener le combat puis de mettre ce gars-là à dos ou cette fille-là à dos parce que tu t'ostines souvent. J'ai encore dans mon sac à préjugés ici, j'en ai un ici. J'ai l'impression que c'est les gars qui sont plus de même que les filles. Les filles ont plus tendance à dire « Hey, là, je vais me battre, là, mais pour l'utilisation de la petite mopette à côté du lave-vaisselle, je me chicanerai pas avec toi. »
Ben, je vais peut-être te décevoir, mais l'opposition, elle n'a pas de sexe. Non, c'est ça.
Je suis contente que tu dises ça, parce que
Yann
aime genrer les sujets.
Ça se peut, des fois.
Les gros bornés, c'est rare que j'ai rarement tombé sur des filles extrêmement bornées.
Mais je pense que ça se traduit différemment. Je pense que c'est vraiment ça. Peut-être qu'on est un peu plus ratoureuse à ce niveau-là, je sais pas, mais Mais non, mais c'est vrai, je pense qu'on le traduit différemment.
Les ratoureuses sont genrées?
Ben, on le définit...
qui m'énerve.
Oui, moi aussi. Bon, on est deux sur trois. On l'aime pareil. Mais l'idée là-dedans, c'est de bien définir ce que c'est qu'un gros gibier. C'est-à-dire que l'opposant ou l'opposante, c'est celui ou celle qui peut être charmant a priori, qui peut avoir l'esprit ouvert, mais qui lâche pas, puis qui peut être méprisant. Et je crois que quand on parle de ça, il n'y a pas de sexe. Et j'irais même jusqu'à aller encore plus loin dans ma vie. Les opposants filles peuvent être à la limite.
Castrante?
Peut-être que l'utilisation de beaucoup de détails peut amener justement à être plus chiant, tu sais. Mais l'opposant, il va provoquer la même chose qu'il soit un gars ou une fille. C'est-à-dire, t'es pas à l'aise. Mm. T'as l'impression que tu dois lutter contre quelque chose. Que, tu sais, t'es comme l'ennemi à abattre. T'es comme si c'est jamais simple, c'est compliqué. Et l'opposant, c'est celui avec qui la difficulté relationnelle représente vraiment un gros défi. Mais aujourd'hui, j'étais là pour vous dire, mais il y a des solutions pour être capable. Non, mais c'est parce que, tu sais, mettons là, que c'est ton boucher du coin, tu fais, qui mange de la marde, je le verrai plus. Ouais. Okay?
Mais quand c'est ton conjoint, quand voilà. C'est ta conjointe, quand oui. C'est tes enfants ou quand oui. C'est ton père.
Oui, oui, puis on peut remarquer aussi une tendance chez l'adolescent et l'adolescente. Donc, tu sais, je veux dire, un jour ou l'autre, on va être confronté à quelqu'un avec qui on a envie d'être, mais qui présente un défi relationnel.
Moi, j'étais de même ado. Je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui sont comme ça, qui ont bon comme un... ouais, mais qui ont un besoin de faire savoir que les autres savent tout, sont rendus assez grands. Oui, ouais. C'est ça exactement, qui argumente tout le temps.
T'as quel âge?
Moi, je... 28.
Ça finit quand, ça, l'adolescence?
Bon, là, il faut diviser. Étape de développement et trait de personnalité. Si c'est trait de personnalité, ça peut... Puis, tu sais, dans la vie, c'est pas d'être un yes-man non plus. On a le droit d'avoir des opinions. On a le droit de pas être d'accord. C'est vraiment dans la façon d'être avec l'autre. Donc, rappelez-vous que le gros gibier, il y a une tendance imposante et même qui peut provoquer l'intimidation. C'est-à-dire que je me sens écrasée par l'autre. Je me sens... C'est des grandes gueules. Des grandes gueules qui n'écoutent pas beaucoup et que même si tu as raison, ils vont chercher... Tu sais, ils sont des batteurs qui veulent gagner.
Ça peut avoir un lien avec un pervers narcissique?
Ah, bien, ils le sont, assurément.
Ouais,
c'est des... Oh, tu ne l'es pas nécessairement. C'est-à-dire, un pervers narcissique va être nécessairement opposant, intimidant, mais c'est pas parce que tu es opposant et que tu as de l'argumentaire que tu es nécessairement un narcissique et contrôlant. Tu comprends?
Okay. Oui.
Puis, ça peut être une période de ta vie. Tu peux avoir un profil, tu peux avoir un trouble d'opposition, tu peux avoir un profil opposant, ça peut être un trait de personnalité.
Mais pourquoi ça viendrait d'où, ça? Mettons qu'on fait le petit portrait, là, qu'on les remarque dans notre entourage. Pourquoi il y a certaines personnes qui sont toujours en opposition? Qu'est-ce que ça t'amène, ça?
Ça peut être une étape, c'est-à-dire que tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien, tu ne supportes pas les deux fesses, fait que tu ne supportes pas les autres. Tu es tout le temps en train de rejeter l'autre. Mais ça peut être aussi, quand on parle du comportement humain, on parle de trois tiers. Premier tiers, c'est l'hérédité et la génétique. Donc, oui, il peut y avoir une famille. Puis c'est pas rare, moi, quand je fais de l'intervention, que petite pomme opposante a le gros pommier à côté opposant. Quand je vois petit pit, je vois grand pit aussi.
On a chez nous un coton ouaté, chialeux depuis des générations.
Ah oui, c'est ça! Bien, il y a des colériques, il y a des... On les appelait les Roger Bontemps à l'époque, ouais. Familiales. Tu sais, il y a des familles d'ostineux. Puis c'est le fun de les voir aller parce que...
C'est divertissant.
C'est divertissant. Le deuxième tiers, c'est l'éducation. Et le troisième tiers, c'est les événements de la vie. Bon, fait, tout ça va formater ce que tu es. Puis, ben, l'idée, c'est quand moi, j'ai à vivre avec quelqu'un, comment je me positionne. La pire chose à faire, je vous le dis tout de suite, si tu as compris ça, tu vas être capable de mieux dealer avec un opposant parce qu'il y a souvent l'escalade. Il lâche pas. Hein, tu sais. C'est ne pas se justifier. Se justifier, c'est la pire des pires choses. C'est comme si tu te mettais à genoux devant lui ou elle, tu lui donnais des dards et tu disais « paye-toi la traite ».
Oh ouais.
Oui, parce que la justification, ça lui donne le potentiel de rebondir.
De varger.
De varger, d'argumenter, de s'opposer. Donc, on sait que se justifier, c'est comme si on lui suppliait « il faut que tu me comprennes ». Et j'ai envie de vous donner un exemple, ça vous tente-tu? Bon, moi j'ai quand même un grand réseau d'humains que j'aime. Et j'ai plusieurs humains que j'aime qui sont dans la catégorie de l'éducation. Donc, j'ai des amis profs qui souvent me disent « Paul, viens tester ta marchandise chez nous. » Quand j'ai une nouvelle conférence jeunesse, je vais le tester. Bon, c'est pas des tests tant que ça parce que c'est vraiment à point, là, mais... Puis, une bonne année, je suis allée plusieurs fois dans une classe et c'est la remise des bulletins. D'ailleurs, c'est la semaine actuellement de ça. Elle me dit « Paul, j'ai un jeune tellement opposant dans ma classe. Là. Écoute, j'appréhende papa. » parce que papa, il a une grosse tendance pour l'avoir entendu parler quelquefois dans le corridor puis y avoir parlé au téléphone une fois. Ben, j'ai dit, comme je suis allée porter de l'information aux jeunes, je suis allée animer tout ça, est-ce que tu aimerais que je sois présente? Parce que moi, j'observe des choses quand je suis là aussi. Tu sais, ça me permet de... Elle dit, oh, tu me sauverais la vie. Donc, les parents sont contents de me voir. Souvent, ils me reconnaissent, ils jasent. Et il arrive papa qu'on appréhende. Puis, elle est vraiment nerveuse. Parce que c'est ça aussi. L'opposant, il provoque chez toi une déstabilisation émotive qui lui permet, lui, de prendre le pouvoir. Parce que c'est des aides de pouvoir, souvent. Hein? Donc, papa arrive, un grand monsieur, un grand manteau. On est à ce temps-ci de l'année, tu sais, ouvert. Et mon ami prof lui demande de s'asseoir. Il dit, je reste debout. Donc, déjà, je suis en train de pisser sur mon territoire, tu sais. Puis il dit, là, je t'avertis, je suis pressée. Donc, il prend vraiment, je suis pressée, puis je vais quitter quand ça sera fini, à mon goût, à moi. Il prend son... Puis là, elle me regarde, tu vois qu'elle est pas bien, déjà fébrile. Et c'est là que c'est le fun commence. Fait que lui, il se dit, yes, elle est déstabilisée. Puis là, elle commence à lui expliquer, parce qu'elle veut arriver à ton fils, là. Bien, il sème la zizanie, puis la peur dans la classe. Puis là, elle commence à vouloir, il explique ça. Puis là, elle dit, vous savez, et là, elle commence à justifier. Parce que le malaise, quand t'es malaise, ouais, tu justifies.
Tu parles.
Et là, elle dit, ben c'est parce que j'ai été malade en début d'année. J'ai pas que lui dans la classe, on est 30. Là. Puis là, il dit, là, si t'es pas capable d'enseigner, reste donc chez vous. C'est la réplique même du gros gibier, tu comprends? Puis là, elle a perdu ses moyens, puis... Fait que là, moi, j'ai pris le relais. Mais elle était complètement déstabilisée sur le bord des larmes parce qu'il était rentré par la porte qu'elle avait donnée, tu comprends? Fait que c'est souvent ça qui arrive. Prendre le pouvoir, puis...
Mais pourquoi les gens tolèrent ces gens-là?
Bien, parce qu'ils sont déstabilisés.
Ouais, mais à un moment donné, à toujours tolérer les intolérants, ça va faire une société complètement weird. Si le gars veut pas s'asseoir, si le gars veut rester debout puis il dit qu'il est pressé, tu peux lui offrir de quitter la salle puis de revenir un autre jour où ça ira, mais ça veut pas dire que ton agenda va être prévu à cet effet-là. Tu sais, tu l'arrêtes tout de suite. Pourquoi on tolère ça, ces individus-là? Ils arrivent, puis là, ben, ils peuvent s'étaler partout dans la pièce. Non, non, c'est...
Comme si le monde leur appartenait.
Je suis le maître de cette pièce-là. C'est moi la maîtresse. Si je vous demande de vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Sinon, vous pouvez quitter. Il n'y a pas personne qui va vous empêcher.
Ben, écoute,
on les tolère, ces gens-là.
Ben, c'est un peu vers cette direction-là que moi, je suis allée. J'ai dit, est-ce que vous venez pour écouter ce qu'on a à vous dire? Et là, il s'est arrêté puis il a dit, oui, parfait. Sinon, je vous aurais demandé de quitter. On a quelqu'un d'autre qui attend.
That's it.
Mais c'est parce que moi, tu sais, ça fait 30 ans que je suis avec des délinquants, tu sais, je travaille là-dedans. Mais l'autre prof à côté, puis c'est notre personnalité aussi, là, ils sont déstabilisants. C'est pas facile, Yann. Puis Yannick, puis je pense que là-dedans, puis aujourd'hui, le but, c'est de se dire, t'as le droit et le devoir. Parce que, pour moi, ignorer, c'est donner la permission à l'autre de continuer. Ça, c'est clair. Mais souvent, on perd nos moyens. Puis, ce que j'ai envie de dire, c'est souvent, quand on a à faire face à un gros gibier, il y a trois éléments essentiels. Un, le dégagement. L'autre, l'affirmation. Et le dernier... Le dégagement, l'attitude, l'affirmation. Donc, le dégagement, c'est ce que tu penses de toi et ce que tu penses de la situation. La prof était déjà disqualifiée avant qu'il rentre. Ça m'a demandé d'y aller. C'est parce qu'elle était déjà morte de trouille. C'est souvent la peur, tu comprends? Le dégagement, c'est ce que tu penses de toi. Et ça va influencer ton attitude. Si tu rentres en disant, « Viens donc me chercher pour le fun, tipit. » Puis quand je travaille avec les gens qui se font intimider, beaucoup des ados, là, qui ont traîné ça toute la primaire, ils arrivent à l'adolescence, puis tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de se réfugier en dessous d'une table à la bibliothèque, parce qu'ils sont pas capables de faire face au monde. Une des premières choses qu'on travaille, c'est le dégagement et l'attitude. Comment tu te présentes devant l'autre? Présente-toi en disant, viens à moi, bébé, viens-t'en. Tu sais, il faut que tu aies un côté rebelle à l'intérieur. Puis ça, ça va formater ta capacité de t'affirmer et de dire des phrases et de les réfléchir. Mais puis j'ai envie juste de dire que les phrases, ils se préparent d'avance.
Oui, parce que c'est excessivement difficile, dans la mesure
très difficile.
Tu sais, c'est drôle, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que plus jeune, moi, j'ai été très, 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 très intimidée. Puis ma mère, elle me disait souvent, Puis là, aujourd'hui, je le traduis en « fake it till you make it », mais ma mère, quand elle était jeune, elle me disait tout le temps « Audrey, tiens-toi droite ».
Ah oui?
Tu sais, quand tu rentres dans une pièce... Oui, parce que moi, j'étais... Hey, mon Dieu, j'étais recroquevillée. Là. J'avais peur de tout, j'étais pas bien avec tout. J'étais... Puis elle me disait tout le temps « Tiens-toi droite ». La façon dont tu te présentes, justement, fait une énorme différence sur, sur ce que tu vas projeter.
Es-tu à l'écoute, là, en ce moment?
Je sais pas si
tu
l'écoutes. En tout
cas, maman, t'étais wow. Non, mais c'est parce qu'au fond, elle disait de travailler ton attitude. Puis souvent, ce que je vais dire aux gens, peu importe l'âge, va-t'en devant un miroir plein pied. Tu peux garder tes vêtements, c'est optionnel. Non, mais plein pied, c'est parce qu'ils m'ont déjà posé la question. Plein pied et pense à quelqu'un qui t'intimide. T'intimide ne veut pas dire que tu fais du mal, mais que t'as un malaise, tu comprends? Puis parle au miroir, à cette personne-là, et regarde ce que t'as de l'air. Justement, tu tiens-tu droit? Es-tu capable de soutenir un regard? Tu sais, les gens, des fois, me disent, je sais pas quoi dire. Ben ferme ta gueule, mais maintiens, tu sais, regarde. Puis ça va pas avec le physique. Puis là, je veux pas rentrer là-dedans parce que Yannick va encore me parler de mon physique. Mais c'est pas une question de physique. Et c'est peut-être à cause du physique que j'ai, justement.
Même
que
si
j'ai
t'es
peut-être
5 pieds 3, ça peut fonctionner.
Elle mesure pas 5 pieds 3.
C'est ça.
Elle mesure pas 5 pieds.
Tout le monde le sait, tu l'as tellement dit. Mais l'idée, c'est ce que tu projettes.
La prestance. Ben.
Oui. La prestance. Moi, là, tu sais, je pense que quand t'as rien à dire, parle pas, mais soutiens le regard. Puis approche-toi de l'autre. Puis j'ai déjà eu, moi, des situations où je savais vraiment pas quoi dire parce que j'étais trop déstabilisée. C'est ça l'objectif, de te déstabiliser. Mais jamais je quittais des yeux.
Puis est-ce que c'est parce qu'on le prend trop personnel, peut-être, Paul? Puis je te donne un exemple comme ça. Pendant la pandémie, moi, j'ai perdu ma job le soir. Et on dit, Yann, ils veulent plus placer de la publicité de la semaine.
Oui.
Fait qu'on va garder les équipes de jour. Puis le soir, bien, on va te rappeler quand ça va repartir. Je dis, OK, c'est beau. Fait que là, ça me tentait pas de rien faire. Fait que j'ai fait du bénévolat pour les Châteaux Bellevue.
Okay. Oui.
Et là, j'étais au Château Bellevue. Puis on me dit, toi, t'es responsable de la place. Il faut pas que les familles rentrent dans le Château Bellevue parce que si les familles rentrent dans le Château Bellevue, la COVID va rentrer puis tout le monde va mourir. On me dit ça. OK, c'est beau. Fait que là, moi, je suis là, puis là, je m'occupe des cadeaux qui venaient au Château Bellevue. Je m'occupe des iPads qui étaient envoyés pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille à l'extérieur, tout ça. Je m'occupe de tout ça. Puis à un moment donné, il y a une dame qui arrive, puis qui est vraiment fâchée, elle ne peut pas voir sa mère. Sa mère avait à peu près 80-90 ans, puis elle était dans ses derniers mois de vie, tu sais. Puis je la comprenais, la dame, mais elle était tellement crinquée. Moi, je prenais pas ça personnel, mais elle était tellement crinquée qu'à un moment donné, j'ai dit, madame, moi, je peux pas vous laisser rentrer. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Puis je vois que vous êtes extrêmement fâché puis vous désirez vraiment voir votre mère. Vous avez le droit de prendre votre mère puis l'amener chez vous. Et sa face a changé du tout au tout, là. Parce que là, elle s'est rendue compte qu'il faudrait qu'elle prenne soin de sa mère 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis elle a comme décrinqué. Elle avait raison d'être fâchée. T'sais, ça n'avait pas de maudit bon sens qu'on prive les gens de voir leur propre famille. Mais les règles de l'établissement à l'époque de la COVID, c'était ils n'ont pas le droit de rentrer dans la bâtisse. On veut essayer le plus possible que ça ne rentre pas dans la bâtisse. Mais quand j'ai dit, madame, vous êtes crinquée, là, vous êtes en train de m'insulter, vous insultez tout le monde, vous pouvez prendre, j'ai pas le droit de vous laisser rentrer. Par contre, je peux vous apporter votre mère, puis vous la prenez, vous l'amenez à la maison. Là, tout d'un coup, elle a comme descendu. Là. Elle s'est comme rendu compte que ça allait peut-être être un autre job, amener sa mère à la maison. Là. C'est qu'on prend ça personnel. Mais moi, je prenais pas ça personnel. Fait que ça a été facile pour moi de dire les choses. Madame, je peux vous empêcher de rentrer, mais elle, je peux vous la donner et vous partez avec.
Oui, mais c'est même au-delà de prendre personnel. T'sais, si je reviens à ce que tu disais, Paul, là, sur la façon dont on interagit, j'ai comme l'impression des fois que c'est un reflet de ta propre confiance personnelle aussi. Ouais. Quelqu'un qui se croit dur, quelqu'un qui est en contrôle de lui-même, quelqu'un justement qui est très opposant, qui est dans l'argument, qui s'obstine, qui se fait plus grand que toi, on dirait que si toi, t'as pas la confiance de te tenir de la même manière, bien, ça devient franchement difficile.
Tu sais, dans la restauration, si tu prends tout personnel, tu passes pas au travers de ton corps de travail. Là.
C'est sûr.
Ça a dû être pour toi une école aussi.
Ben, les chefs cuisiniers, c'est tous des psychopathes. Les clients, ils ont pas de temps à perdre, fait qu'ils sont des fois très bêtes, alors que dans leur tête, ils le sont pas. T'sais. Fait que si tu prends tout de personnel, tu passes vraiment une mauvaise journée.
Ben, en fait, d'être stratégique nous aide. Parce que quand tu es stratégique, tu es dans ta tête. Quand tu es en réaction, tu es dans ton cœur. Mais c'est pas simple. Parce que dans ce cas-ci, ce que tu racontes, Yannick, c'est... t'as proposé une alternative, puis t'as gardé ton calme. Puis ça, c'est une des choses les plus importantes.
Parce que je le prenais pas sur moi.
Oui.
C'était pas de ma faute.
Oui, mais c'est parce que c'est pas naturel pour tout le monde. Et c'est aussi pas toujours vrai en tout temps. C'est-à-dire que si, par exemple, cette journée-là, je vais prendre un exemple, si cette journée-là, tu aurais été déstabilisé parce qu'un de tes enfants est rentré à l'hôpital, puis tu es inquiet, puis tu attends les résultats, puis tu t'es chicané avec ta blonde, ça se peut que cette journée-là, la madame revienne, puis que tu ne sois pas aussi efficace. Ce que ça veut dire, c'est que ça ne prend pas grand-chose pour nous déstabiliser. Mais on sait qu'il y a des personnalités qui sont beaucoup plus dans la capacité de s'affirmer, d'autres qui ont plus de difficultés. Mais ça se pratique, tu as raison. Ça se pratique, puis aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est se donner la permission, se rappeler qu'ignorer, c'est une mauvaise façon de faire, et que, bien, être stratégique plutôt qu'émotif, être calme et ferme, ne pas le prendre personnel. Puis, il y a une stratégie, le fun, c'est retourner la question. On appelle ça la méthode de l'avocat. Ben non, c'est moi qui appelle ça de même parce que, tu sais, à force de regarder toutes sortes d'affaires autour, j'ai remarqué que les avocats, ils sont incroyables dans le retour des questions.
Mais tu es en train de nous donner la technique de Bruno Marchand en conférence de presse, je tiens à te le dire. C'est pas tout le monde qui le sait, mais Bruno Marchand fait exactement ça.
Il retourne une question. Ouais. Et là, à ce moment-là, qui est obligé de justifier?
C'est la personne qui l'a posé.
C'est la personne, oui. Tu comprends? Fait que tu retournes la balle. Fait que quand quelqu'un dit, par exemple, je reprends l'exemple du papa qui a été très, très bullying lors de la rencontre des profs, il a voulu encore essayer, tu comprends? Mais j'ai utilisé vraiment la méthode de l'avocat, j'ai retourné une question. Vous ne faites rien pour mon fils. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour vous? Tu comprends? Donc, retourner une question, c'est l'autre qui est obligé de justifier. Puis là, j'ai envie d'aller dans une caricature pour vous montrer à quel point c'est efficace, mm-hmm. puis c'est fort. Peut-être que votre belle-mère va vous dire, le temps des fêtes s'en vient. Comment ça se fait que tu laisses jamais mon fils ou ma fille venir me voir? Tu veux tout le temps aller chez ta mère ou ton père. Hein? Tu viens pas. Tu pourrais avoir envie de te justifier. Mais mettons que tu retournes une question. Puis elle dit, pourquoi tu viens pas aussi souvent chez nous dans le temps des fêtes? Et que tu réponds, d'après toi, pourquoi? Et quand je dis ça en conférence, ils sont comme 500 à crier, là, tu sais. Imagine, tu fais ça à ta belle-mère. Là, les gens vont dire, je dirais pas ça, je ferais pas ça. Mais tu vois comment c'est puissant de retourner une question. Mm-hmm. Ce que ça peut provoquer dans « je reprends le pouvoir de la situation ».
Tu sais, puis dans le merveilleux monde du journalisme, bon, techniquement, tu es supposé poser des questions dont tu connais la réponse, là. Puis je me souviens d'une question qui avait été posée au premier magistrat. C'était « Monsieur le maire, pourquoi vous coupez pas ORTC, Réseau de transport de capital? » Et le maire Marchand, qui est un gars très brillant, qui ça fait des années qu'il travaille en communication, dit « Où est-ce que vous voulez que je coupe, madame? » Mais l'autre, elle ne connaissait pas les réponses. Là. Mmh, fait qu'elle a eu l'air un peu ridicule. Ouais, c'est une technique qui est utilisée par des gens qui ont appris à argumenter. Il y en a que c'est naturel. À naissance, ils sont capables d'argumenter avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents et tout ça. Ça s'appelle des enfants gossants, soit dit en passant, si vous cherchez un mot. Mais par la suite, ils sont capables d'argumenter. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas appris ces techniques-là. Ça s'apprend, les techniques d'argumentation.
Ça s'apprend. Puis tu avais raison, Audrey. Pour que ça se fixe, il faut qu'il y ait une estime puis une confiance. Parce que tu deviens une proie pour ces gens-là. Tu sais, des gens qui ont une capacité de réplique. On n'a pas envie de gosser sur eux autres longtemps parce que c'est pas attractif pour ces gens-là.
Tu nous as parlé tantôt de trois étapes. On a parlé de la première qui était le
dégagement.
Le dégagement après.
Oui. Le dégagement, c'est ce que tu penses de toi. Imagine tu vas chercher tu veux aller chercher une augmentation de salaire, puis ton patron, c'est un gros gibier, il n'est pas simple, pas compliqué. Si tout le long que tu t'en vas le voir, tu te dis, j'y arriverai pas, c'est sûr que quand tu vas ouvrir la porte, le numéro 2, qui est l'attitude, va être assurément influencé. Donc, l'attitude, c'est ce que ta mère te disait. Comment tu te positionnes, ta façon de regarder. Juste te tenir droit devant quelqu'un, juste approcher quelqu'un. Tu sais, des fois, moi, dans certaines situations, j'ai juste regardé et approché quelqu'un. En dedans, ça tremblait, mais j'étais calme et ferme. Le jour où je me suis fait attaquer au couteau, parce que c'est arrivé quelquefois, malheureusement, de monsieur violent, je pense que vous l'avez compté, hein?
Moi, je ne...
Je t'ai-tu compté, Yannick?
Je connais pas cette histoire-là. Puis là, mon Dieu, on peut-tu faire une parenthèse?
Je t'assure, comment ça? Tu connais pas tout de ma vie. Je t'ai jamais raconté ça.
Mais ça sur l'âge, tu pensais que tu l'avais raconté.
Est-ce qu'il mérite que je le raconte? Bon, je fais fi.
Oui, on va se parler à deux. Je suis tout ouïe.
Paul, pourquoi tu penses que tu mérites que tu le racontes?
parce que je me trouve extrêmement pertinente et intéressante. Sinon, tu ne m'inviterais pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Parfaitement d'accord.
Wow! Hey, je vais rentrer ça dans mon petit carnet, ça, là. Yann va m'aider.
Donc...
Je les connais, ces techniques-là. C'est assez facile.
Oui, c'est ça. Moi aussi, fait que t'imagines comment on a du plaisir. Mais l'idée là-dedans, c'est que tu sais jamais. La vie est truffée d'imprévus. Et moi, j'ai travaillé souvent avec des personnes qui vivaient de la violence conjugale. Je suis obligée de dire des femmes, parce que plus souvent, c'est les femmes. Et il y a un dossier où, à cause de mon implication, monsieur a été reconnu, parce qu'il l'a quasiment tué, là. Il a été reconnu coupable. Et il a été 2 ans moins 1 jour en prison. Et bien sûr qu'il m'avait promis que je finirais pas mes jours. Ça, c'était clair. Parce que tu dois aller en cours, hein? Je l'ai vu en cours et puis il était assez clair sur le fait que je ne finirais pas mes jours. Et les années ont passé, 2 ans moins 1 jour, tu sais, je ne pense pas tous les jours, là, je n'ai plein de dossiers. Et un bon soir, je m'en vais donner une conférence. Et je suis souvent une des dernières acquittées avec la personne qui organise parce que les gens viennent me voir, bon, etc. Et cette fois-là, je sors. Le stationnement est très noir. Il reste une personne à l'intérieur qui est en train de ranger les choses. Moi, je suis à l'extérieur et je me fais attraper par un colosse. Pour mal faire, il est colosse, tu sais. Puis, il y a un couteau. Et puis, il me dit, ben là, je peux pas sacrer, mais vous pouvez comprendre que, entre guillemets, c'est pas doux ce qu'il va me dire, notre tabarnak, va te tuer, moi, tellement. Puis, il y a un couteau. Et là, il dit, tu me reconnais pas? Je le reconnais pas. Là. C'est sur le coup, je me dis, qu'est-ce qu'il veut? Puis là, bien sûr que je finis par le replacer. J'ai tellement peur, là, parce que c'est du gros, gros gibier que j'ai devant moi, là, comprends-tu? Puis il est violent, puis il est hors de lui, tu sais. Mon auto est loin. Mon sac à dos, tu sais, j'ai pas accès à peu près rien. Là. Fait que... Je me suis dit, rapidement, là, que si je lui démontrais ma peur, il me tuait. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Et je pense que ce qui nous protège, quand tu parles de l'attitude, du dégagement, qui va influencer l'affirmation, c'est, je me suis dit, la peur... Fait que là, j'ai regardé, j'ai dit, ben, t'attends quoi? J'ai été provocante, j'ai dit, t'attends quoi? Hey, mais en dedans, je te dis, j'étais morte de peur. Ben là, t'as pas peur, mon tabarnak? Ben là, si tu veux arriver à ton objectif, là, vas-y, go. Bon, je ne dirais pas que c'est la meilleure chose à faire si vous êtes attaqué au couteau, mais c'est le réflexe que
j'ai eu.
Mais
dans ton cas, ça a marché.
Ça a été un réflexe de survie.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ben là, il a voulu me faire peur, tu sais, puis il voulait créer. Puis là, c'est sûr que moi, j'étais de plus en plus pas bien. Et le deuxième réflexe que j'ai eu, c'est d'attirer son attention sur autre chose. Et je lui ai dit, puis je le vous voyais. J'ai dit, vous avez tellement des mains incroyables. Il y avait des grosses mains, c'était un gros monsieur. Vous avez tellement des grosses mains et qui pourraient servir à faire autre chose. C'était pas prémédité encore. Et là, il y a eu comme, il pourrait servir à récupérer le monde que vous aimez. Et là, j'ai senti comme, tu sais, quand les petites épaules baissent, là. Puis je suis rentrée par cette porte-là. Puis finalement, il a dit, pas à soi, ma tabarnak. Puis il est parti. Hey, j'ai eu de la misère à me rendre à l'auto.
Je comprends.
Je te jure, j'ai eu de la misère à me rendre à l'auto. Là. Quand je suis arrivée dans l'auto, je pleurais tellement, j'ai appelé mon mari, puis j'ai dit, viens me chercher. Puis l'auto est restée là, puis, tu sais, j'en parle, j'étais encore pleine d'émotions. Puis je sais pas comment j'ai pu mettre la peur de côté, mais j'ai compris, puis ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, j'ai compris que c'est la peur qui permet au gros gibier de toutes les... Parce qu'il y en a, lui, c'est un gros, qui nous permet de récupérer nos ressources. Il aurait pu, honnêtement, cette provocation-là aurait pu provoquer autre chose. Mais j'ai comme utilisé l'arme que je connaissais le plus, qui était « fais que t'as pas peur », tu sais.
OK, ça a fonctionné.
Dans ce cas-ci, mais c'est parce que aussi, ça m'a permis de rester calme. Tu sais, de calmer la peur, c'est de calmer toutes les autres émotions aussi. Mm-hmm. Donc, ça te permet d'avoir accès à tes ressources, ce qui n'est pas évident. Je vous raconte ça, puis c'est immense, là, mais...
Juste... Mais je manque de mots, là, je trouve ça...
Ben tu sais, dans la vie, quand tu brasses de la marde, ça peut t'éclabousser. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je pourrais décider de rester chez nous tranquille, là. mais tu sais, je décide d'aller dans les pires places du monde, puis de me lever, puis d'être justicier. Ouais. Puis c'est ça aussi, quand tu deviens justicier, tu deviens à risque avec quelqu'un à quelque part qui décide que, ben il faut te faire ma gueule, tu sais. Fait que, mais là, on parle de très, très gros gibier, mais aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, c'est tout ça se pratique. Et commence par se pratiquer en se disant, moi, là, il y a personne nulle part qui va me faire du mal. Quand tu prends cette décision-là un jour de dire « c'est no way », on dirait que tu viens de t'ancrer dans quelque chose qui fait « tout ce qui va m'arriver à partir de maintenant va être un terrain de pratique. Mm. » Puis « watch moi bien aller ».
Je vais t'embarquer sur d'autres choses après, mais juste avant, on va faire une petite prémisse. Tu sais, moi, j'ai souvent entendu là, des gens qui sont comme des tapis, tu sais. Ils se laissent piler dessus constamment. Ou des gens qui disent, regarde, moi, ça me tente pas de rentrer en chicane. Puis, à partir du moment où ces gens-là changent, puis je vais donner un exemple des collègues de travail, mais c'est un exemple qui n'existe pas, là. Mais des collègues de travail, c'est qu'il y en a un ou une qui embarque tout le temps sur l'autre. Ben là, c'est pas ce que tu penses, Audrey. Mais il y en a un ou une qui embarque tout le temps sur l'autre. Puis là, à un moment donné, l'autre est comme tanné après comme quelques mois. Là. C'est parce que là, ça se pile souvent sur mes affaires. Là tu peux-tu juste reculer? Bien, c'est toi qui vas mal paraître dans l'histoire si tu agis comme quelques mois plus tard, si tu ne fixes pas tes limites. T'sais. Audrey, on avait déjà parlé, moi et elle, des limites dans la vie. T'sais, elle me parlait pendant la pause de limites qu'elle avait dans un autre truc personnel à elle. Puis je trouvais ça intéressant, le concept. Mais des gens qui acceptent, au départ, de constamment se faire piler dessus, avec des arguments qui n'ont pas de bon sens ou des chicanes avec le beau-frère ou la belle-sœur parce que, bon, la belle-sœur ne respecte pas comment toi, t'élèves tes enfants et tout ça. Si vous acceptez ça puis que vous pétez 8 mois plus tard en disant « Là, toi, ma crise de folle, tu vas arrêter de me dire ça, là, c'est ma famille, c'est pas la tienne », vous ne gagnerez jamais. Je pense qu'il faut faire comme Audrey. C'est au départ se fixer des limites. Puis si la personne dépasse un peu les limites, dire « Hey, tu sais, moi, je t'accueille chez nous, ma famille ici, je la gère comme je veux, puis toi, tu gères ta famille, puis c'est la beauté de la chose, c'est qu'on peut s'entendre pareil. Tu sais, tu le fais tout de suite au début, parce que ça me semble qu'on paraît plus mal quand on attend comme un an. Parce que quand tu attends un an, les gens vont dire, OK, c'est ça ta véritable personnalité.
Bien, c'est un sage conseil au fur et à mesure. Idéalement, c'est ça, mais il peut arriver des situations que tu n'as pas vu venir puis que tu échappes.
Ouais.
Mais ce que tu es en train de définir, c'est tout à fait une dynamique humaine. C'est-à-dire que dans la vie, tu peux être passif, t'endures. Et c'est très rare que tu pars de passif à affirmatif. Tu passes go. Tu passes de passif à agressif. Parce que t'as accumulé. Quand les gens me disent « Ah, je te dis que je te l'éclenche », puis c'est assez rare que c'est affirmatif. Affirmatif, c'est respect dans les deux sens. Fait que souvent, il faut que tu passes go pour apprendre. Tu sais, mon fils, là, qui était un bon cœur, qui pensait que tout le monde était fin, puis qu'on lui a mis de la neige dans son sac, puis il n'y a rien qu'on n'y a pas fait en première année. Hey, moi, je t'aurais été chercher le petit pit par le cou, ça aurait été 30 secondes. Mais je n'y apprenais rien, tu comprends? Fait que le jour où on a pratiqué, puis qu'il est arrivé en classe, puis que la prof qui me connaissait m'a appelé pour dire « Paul, t'as fait quoi avec ton fils hier? » On a pratiqué. Ben, c'est parce que la petite fille, elle saigne du nez, parce que c'est une petite fille qui faisait du bullying. Fait qu'il n'y a pas assez go, tu comprends? Il n'y a pas assez go. Parce que souvent, quand t'es en retenue, ou quand t'as de la misère...
Mais il me semble que c'est pas inévitable, dans le sens
Je pense que quand tu es dans l'accumulation, c'est un slingshot. Plus t'accumules, plus le slingshot s'en va loin en arrière. Fait que le jour où il part, un chaudron qui bouille, puis tu tiens le couvert, qu'est-ce qui arrive?
Ah, ben, il explose.
D'où être capable, plus au fur et à mesure, ou de ne pas y aller de façon impulsive puis de te préparer.
Parce que j'ai le sentiment que c'est toujours ça. Il y a ce moment-là où tu touches le fond, où tu exploses, puis c'est là que tu n'as plus envie que ça se reproduise puis que tu te mets à travailler sur toi-même. Mais j'ai le sentiment qu'au départ, ces gens-là n'ont pas d'outils. Puis tu as beau essayer les outiller, ils ne savent tellement pas comment faire qu'à un moment donné, ben, c'est malheureux, mais c'est l'accumulation qui fait la job.
Oui. En autant que tu ne gardes pas ce pattern-là. Donc, tu éclabousses, tu dis « Ah, oh, j'aurais dû fermer ma gueule. Oh non, l'autre a réagi. Donc, je vais me taire. » Et là, tu passes de passif à agressif. Donc, l'idée, c'est si tu éclates, puis moi, c'est ce que j'ai dit au prof, on va commencer par le féliciter. Là. Pas parce qu'il a fait saigner la petite fille, mais parce que pour une première fois, il dit « c'est assez ». Il dit mal. Il dit pas correct. Il n'est pas bon, mais il l'a dit. On va commencer par dire « bravo ». Ensuite, tu vas te dire comment faire la prochaine fois, parce que ça, c'est pas bon. Le geste que tu as choisi du pétaïole, c'est pas bon. Mais au moins, tu as essayé quelque chose. Puis c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut aller. Peut-être que c'était pas la bonne façon de faire, mais maudit, tu t'es défendu, puis ça, ça valait la peine.
Parfait. Hey, les filles, je veux vous embarquer dans quelque chose, OK? On entend souvent parler des personnes narcissiques, OK?
Oui.
Souvent, c'est des femmes qui parlent de leur ex. Là.
Bon!
Mais encore,
j'ai
encore.
Pogné un texte sur les réseaux sociaux, puis ça a été partagé des centaines de milliers de fois, puis je me suis dit, faut que je parle de ça à Paul puis à Audrey. Okay? Comment une personne narcissique vide-t-elle votre vie sans le savoir? Elle demande une attention constante. Oui ou vrai ou faux?
Vrai.
J'ai le sentiment que oui. Moi.
Narcissique, ça veut dire que t'es un gros nombril, ça fait que tu veux de l'attention. C'est
elle
sûr.
Détourne l'attention du monde réel avec un bombardement amoureux. Lentement, ces personnes vous séparent de vos amis, de votre famille et de tout système de soutien dont vous disposez.
Vrai.
Ces gens vous privent de sommeil pour leur donner une réserve. Le manque de sommeil est un énorme moyen de briser une victime. Elles racontent leur histoire de pitié pour gagner votre sympathie.
Oh oui, puis ils peuvent fabuler, hein?
Ils peuvent fabuler.
Oui.
OK. Elles sont toujours la victime.
Oui.
Et vous êtes sauveur ou... le torsionnaire.
Absolument.
Elles donneront l'illusion qu'ils donnent tout et seront gentils, alors qu'en fait, ils vous enlèvent tout.
Ça, pour moi, c'est la plus grande des vérités par rapport au narcissisme.
Ce type de personnes veulent que tous leurs besoins soient satisfaits, mais quand vous avez besoin de quelque chose, cela n'a pas du tout d'importance.
C'est à sens unique, ça, c'est clair.
Ce sont les maîtres de l'illusion. Des sorciers de manipulation ou de contrôle que la victime ne remarquera jamais. Elle brise progressivement toutes les limites de la victime, fixant de nouvelles limites que la victime doit suivre à la lettre. Si la victime dépasse les limites imposées par le narcissique, une sanction sera infligée.
Punition, ouais.
T'as entendu parler de ça, ces gens-là?
Ouais. Plus que ça, j'interviens avec eux autres. Là.
Elle joue à un jeu qu'eux seuls peuvent gagner. Vous ne connaissez tout simplement pas les règles et vous n'êtes même pas dans le jeu. Vous n'êtes que leur marionnette.
Un pion.
C'est fou raide. Et ça, il y a des gens qui se sont reconnus ou ils ont reconnu quelqu'un, ils se sont partagés. Je regardais le nombre de partages, je me disais, voyons donc, toi.
Et ça va loin, hein? Parce que un pervers narcissique a l'impression même que ses enfants sont le prolongement de lui-même. Et tu vas voir des pervers narcissiques poser des gestes, par exemple, où il va tuer ses enfants, puis ne pas avoir de remords, parce que c'est le prolongement de lui-même. Donc, il peut décider de la vie. Ça peut aller jusqu'à décider de la vie et de la mort.
C'est moi
de
qui leur ai donné la vie, donc je peux leur enlever. Oh, shit.
C'est l'extension. Ça peut... Là, c'est on long. Parle de quelqu'un. Là, on parle de quelqu'un qui est très, très déstabilisé. Einstein disait, dans le désordre, on refait un nouvel ordre. Donc, quand je brise quelqu'un, je provoque le désordre et je peux réinstaller le nouvel ordre, donc le programmer pour qu'il soit mon serviteur. Il sert à ma cause en tout temps.
Et c'est tellement énormément de manipulation, mais ça, je voudrais faire une chronique là-dessus. Ouais.
Est-ce qu'ils le savent, là-dessus? Ces gens-là, qui sont des pervers narcissiques?
Le problème, c'est que plus ils sont intelligents, plus ils sont dangereux.
Ah ouais.
Fait que tu peux avoir des gens dans la très, très haute société. Là,
ouais. Mais est-ce que c'est conscient?
Écoute, là, moi, je pense que...
Parce que parfois, je peux être pervers.
Je pense que les déresponsabiliser de cette conscience-là,
ouais.
C'est grave. C'est-à-dire, tu sais, c'est pas de ma faute. Je suis pervers narcissique. Moi, je pense qu'ils n'ont aucune empathie puisqu'ils sont narcissiques et que c'est leur cause naturelle. Donc, je crois qu'ils n'ont pas la capacité de se mettre à la place de l'autre, mais ils ont la capacité intellectuelle de voir ce qu'ils font.
Puis à part être des politiciens, y a-tu d'autres professions? Ben?
Il y en a partout, là.
Hey, mon Dieu, moi, je te dirais qu'il y en a dans
des
professions plus proches de nous. Y en a...
Ben, je te dirais, le danger, c'est que ces gens-là aiment le pouvoir.
Ouais.
Fait qu'ils risquent de se retrouver, et s'ils sont intelligents, dans des rôles de pouvoir.
Et voilà.
Hey, ça pourrait faire l'objet de notre prochaine.
Ben, tu sais quoi? On mettra ça sur la liste de choses à jaser avec
pourrait.
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. PaulLévesque.net.
PaulLévesque.com.
PaulLévesque.com.
Voyons, tu m'as mélangé. Je pense que c'est
Attends,
point net.
On va aller googler.
PaulLévesque.
Vague.net, je pense, c'est ça. Hein?
Quand est-ce que tu as su qu'il fallait pas mettre un S après le premier L-E?
L-E-V-E-S-Q-E.
Levesque, c'est ça?
Oui, L-E-V-E-S-Q-E.
Officiellement, ça doit être .net parce que .com, c'est une artiste peintre.
Ouais, c'est .net, je pense que c'est ça. Ouais.
Donc, je l'avais.
Je ne suis pas bonne dans le marketing.
M-A-R-K.
Je me dis que quelqu'un qui va me retrouver, il y a juste à écrire Paul.
Paul Levesque.
Oui. Il va me retrouver.
Et là, les cheveux rouges.
Oui, je suis facile à trouver. Puis vous pouvez appeler vos prefs ici, vous allez me retrouver.
Absolument.
Vos prefs.
Paul Levesque.
T'as un petit langage jeune.
Jeune, mais moi, j'écoute pas les jeunes, mon âge avance.
Paul Levesque, on t'aime.
Ah, c'est tellement, tellement partagé. Et ça, c'est ce qu'il y a de beau. Quand tu vieillis, c'est que tu ne vas plus aux places où tu n'as plus envie d'être.
Ah, c'est bien dit,
mais
ça!
Si je suis ici, c'est parce que je vais être nulle part ailleurs. Ça,
11h15, wow. On s'arrête. Merci, Paul. Bye-bye.
Boulevard 102.1. Ça passe.